Il y a des paroles comme ça qui sont... inattendu, extraordinaire, hein, c'est vrai, dans le psaume, dans le livre de la sagesse, qu'on a aujourd'hui, on a par exemple, celui qui dit que Dieu n'existe pas, est inconsistant. Les hommes, l'homme qui dit il n'a pas trouvé Dieu, est inconsistant. Il n'a aucune substance. Dans le psaume, il a dit incipiens, dixit in corde suo, non est Deus. Celui qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas est insipide. Insipide. Tout ça extraordinaire. On est dans un monde d'athéisme total. Et c'est inconsistant. C'est insipide. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils vivent, plus on avance vers la fin, plus c'est nul, plus c'est inconsistant, plus c'est insipide. C'est pas seulement imbuvable et immangeable. Insipide, ça n'a strictement aucune beauté. Plus on avance vers la fin, plus on s'approche, comme dit Saint Hildegard. Du vide. Et le vide appelle le néant et encore un pas et ils sont engloutis. Aujourd'hui, on fête Saint Albert le Grand, qui est eu Saint Dominique, hein, qui est du XIIIe siècle. Et Saint Albert le Grand est un dominicain, un disciple de Saint Dominique, qui est aussi du XIIIe siècle. Un dominicain de Cologne. Et on fait lire aux séminaristes, on fait lire les livres de Saint Albert le Grand, parce qu'il explique tout simplement l'existence de Dieu de manière démonstrative. Enfin, il explique comment on touche, il amène parlant comme ça, voilà, que Dieu est là, mais c'est pas un sermon qu'il fait, c'est quelque chose que n'importe qui peut entendre. Même s'il n'a pas la grâce, même si dans le péché jusqu'au cou, même s'il veut pas vivre de Dieu, tout le monde peut suivre Saint Albert le Grand et voir que Dieu existe et que abandonner tout ce qui n'est pas Dieu. Puis il a aussi bien sûr un grand théologien. C'est sur lui que va s'appuyer. Après sa mort, Saint Thomas d'Aquin. Et il y a eu comme ça une succession. Hein. Il y a eu Saint-Dominique a engendré Saint-Albert le Grand, Saint-Albert le Grand a engendré Saint-Thomas d'Aquin. Incipiens, il est insipide. Insipide, mais insipide. Mais c'est la vraie vie que de vivre de Dieu. Mais ceux qui ne vivent pas de Dieu sont des êtres rampants. On se demande comment ils ne meurent pas d'ennui. Et pour que leur vie ait un peu de relief, bon, ils font les choses les plus cruelles qui soient. Aujourd'hui, nous avons quand même l'Évangile. Ah, oui, ben oui. On en est, quand vous serez, c'est l'Évangile de Saint-Luc, mais ça correspond à la même, au même jour où Jésus parlait de la fin. Ah, il parlait de la fin dans Saint-Marc, Saint-Matthieu, Saint-Jean. Et là, aujourd'hui, c'est Saint-Luc, mais ces jours-là, hein, ces jours-là. Ce sera comme au temps de Noé, ce sera comme au temps de Lot et d'Abraham. Donc pour Noé, le juste au milieu de ce monde insipide, d'une humanité sans intérêt, entièrement envahie par le néant et le vide, Noé seul est rentré tout seul dans l'arche. Il en sera de même qu'au jour de Noé. Et Lot a le temps d'Abraham. C'est le seul juste au milieu de la cité. Il n'est pas rentré dans l'arche, lui. Il est sorti dans la campagne sans se retourner. Alors, ils ont tous été anéantis et tués. Ils ont tous été engloutis dans le déluge, tous étaient engloutis dans le feu. Mais voyez la différence entre Noé qui rentre seul dans l'arche et puis Lot qui sort dans la campagne, au contraire. Sort de l'abri. Et Jésus dit, vous serez dans la campagne. Ne regardez pas en arrière. Vous serez dans votre maison. N'allez pas vous réfugier. Dans un sanctuaire. C'est pas ça. Oui. Alors, le fait d'avoir beaucoup d'amour, c'est vrai, c'est un amour fou, je donne toute ma vie. Je me marie, je me réjouis, je travaille, je respire, je vais, je viens, tout ça, je le fais, mais si il n'y a pas Dieu, mon amour si puissant qu'il soit, si passionné qu'il soit, mon travail si splendide qu'il soit, est rien du tout. Il n'est rien. Je suis un cadavre en puissance. Je suis un cadavre ambulant. Je suis un mort vivant. Il en sera ainsi au jour du Fils de l'homme. Et puis donc, vous avez entendu comme moi, il y en aura deux dans un lit. Ben, un sera pris et l'autre laissé. Au moins Noé, ceux qui étaient avec Noé dans l'arche, ils étaient sauvés. Et ceux qui étaient avec Lot, s'ils ne sont pas retournés, ils ont été sauvés. Parce que non, là, au jour du Fils de l'homme, c'est pas parce que tu es dans le même lit les apôtres des derniers temps, que tu seras sauvé. Un sera pris, l'autre laissé. Tu seras deux sont dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera le signe du Fils de l'homme. Ce que l'Église dit lorsqu'elle fête, par exemple, le 14 septembre, elle fête la croix glorieuse, elle dit, c'est, nous fêtons le signe, nous fêtons de manière eucharistique le signe du Fils de l'homme, la croix glorieuse, qui manifestera le jour du Fils de l'homme, qui le manifestera, qui est comme le coup de trompette qui annonce qu'il faut se préparer. Alors, les vierges sages rentreront, et les vierges folles resteront dans leur lit et dans leur champ. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde, parce que la fin du monde, elle vient comme ça, et elle opère le jugement dernier, et avant le jugement dernier, elle opère la résurrection de tous les hommes, ceux qui sont restés dans les champs, ceux qui sont entrés dans le corps spirituel du monde nouveau. Tout le monde ressuscitera. Et alors, ce qu'il y a de beau aussi, c'est Jésus disait, ben voilà, si vous voulez savoir quand ça va être, puisque la question des apôtres, c'est bien, Seigneur, ça va se produire, ça se produira où ça, aujourd'hui dans Saint-Luc, c'est où est-ce que ça va se produire. Et dans l'évangile de Saint-Matthieu et de Saint-Jean, c'est quand est-ce que ça va se produire. Et en fait, c'est la même question. Parce que le lieu et le temps se dépassent l'un l'autre à ce moment-là, comme dit le pape dans sa première encyclique. Le temps prend la priorité sur le monde, sur l'espace. Quand le temps prend priorité sur l'espace, l'évangélisation, l'annonce de l'évangile ne peut plus être la même. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Alors, dans l'évangile de Saint Matthieu, il est écrit qu'il faut lire ce que il faut avoir l'intelligence pour pénétrer et lire dans l'Écriture. Que dit le prophète Daniel, l'ange Gabriel, le prophète Daniel, à propos de l'abomination de la désolation. Les disciples posaient bien la question à ce moment-là, Jésus, en disant, ce sera quand? Ce sera quand? Il ne répond pas par la question du temps. Il répond par la question du lieu. Il dit que chacun comprenne et intellige, lise de l'intérieur. Quel est le lieu de l'abomination dans le prophète Daniel, que lui explique l'ange Gabriel, que celui qui comprenne quel est le lieu. Et le lieu, c'est le Saint des Saints. Chapitre 2, verset 22, du corps du Fils de l'homme, de l'engendré de Dieu. Et là, c'est l'inverse d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est Saint-Luc, maintenant, il dit, les disciples ne posent pas la question, ce sera quand? Mais ils posent la question, ce sera où? Je ne sais pas si vous voyez la différence, quand même, de dire ce sera quand? Ah, ben, ce sera le 25 décembre, très bien. Ce sera où? Mais c'est quand même pas pareil. Hein? Ce sera où? Ah, ben, ça sera dans un petit village, au fond, en forme d'Italie. C'est pas pareil. Et donc, ici, aujourd'hui, les disciples posent la question, ce sera où ? Et la réponse là, où sera le corps ? Là aussi se rassembleront les vautours. Et Jésus répond par une date. Il dit, ce sera quand les vautours, les êtres inconsistants, insipides et diaboliques, ils vont tous se concentrer sur le corps de l'homme. Un moment où il est là où est le corps. Là où il est le corps, là où il est, c'est plus un corps animal. Donc nous, on sait aujourd'hui, quand on met ensemble Saint Matthieu, Saint Jean et Saint Luc, on sait très bien de quoi il s'agit. Jésus dit, ce sera, pour ce qui est du temps, ce sera le jour. Tu écoutes si m'échappait. C'est tout. Parce que quand là, tous les démons, tous les infidèles, tous les mauvais, tous les possédés, tous les insipides, tous ceux qui sont déjà attirés irrésistiblement dans le fond de l'Aquilon, tous sont quand même aspirés. Dans j'écoute si m'échappait, mais dans le méchant, ce sera ce moment-là. Parce que là où est le corps, là vont se rassembler les vautours. D'habitude, les vautours, les démons, les pécheurs, les insipides, les inconsistants, ne s'intéressent pas à venir se réfugier dans le corps originel de l'homme. Ils s'intéressent plutôt au mariage, à la grande bouffe, je sais pas moi, des grands voyages touristiques, des exploits cosmiques. Mais ils ne s'intéressent pas, mais c'est pas ce jour-là, oui. Le jour où on cherchera à trouver refuge, c'est curieux ça. À mettre notre inconsistance, les vautours, hein. C'est ceux qui mettent leur contemplation spirituelle néfaste, mauvaise, assoiffée de mort par le corps originel de l'homme. Voilà pour ce qui est de l'heure. Et on s'aperçoit que l'heure et le lieu sont une seule réponse. C'est que si monsieur même, c'est quand l'humanité, absorbée par l'ange noir, l'ange déchu, les vautours, se précipite et se permet de rentrer dans le sanctuaire réservé à Dieu seul. Donc on a le lieu et on a le temps. Le sanctuaire est réservé à Dieu seul dans le premier instant. Alors, est-ce qu'ils vont s'intéresser, comme Noé, à pénétrer dans l'arche, c'est-à-dire dans l'Immaculée Conception ? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à s'engloutir, à se laisser visiter, emparer de l'Immaculée Conception, qui est le sanctuaire de Dieu créant la nature humaine dans son corps apparaissant pour la gloire de Dieu. Non. Ils vont pas rentrer comme Noé dans l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est l'Immaculée Conception. Quand Dieu crée, en ces jours-là, on pourra rentrer aussi, bien sûr. dans l'Immaculée Conception, dans l'Arche d'Alliance, pour s'y nourrir pendant 40 jours, pendant le temps du désert de l'Apocalypse. C'est dans le désert de l'Apocalypse, on se nourrira de l'Immaculée Conception, corporellement, si je puis dire. Et ceux qui se sont introduits dans incorporellement et réellement dans l'Immaculée Conception, en laissant visiter leur conception corporelle, dans la conception incarnée, l'Immaculée Conception, pour ne faire qu'une seule. Oui, à la présence réelle, sans voile, du Créateur et du Dieu vivant. À ce moment-là, ils seront pris. Et les autres, laissés. On sera dans le même lit, hein. C'est-à-dire, il y a les vierges folles et les vierges sages. Eh bien, à un moment donné, il y aura un sommeil. C'est marqué, les vierges folles. Tout le monde est plongé dans un sommeil. Le méchôme, le Gethsémani, le poids de la peine de la création tout entière, du monde biologique, mais tellement puissant que les apôtres ne peuvent strictement pas résister au sommeil. Le poids d'amour de Dieu dans l'interdiction est si fort qu'ils dorment tous. Et on voit les vierges folles comme les vierges sages, celles qui ont préparé de l'huile, celles qui n'ont pas les fioles d'huile. Tout le monde dort. Et bien ce sera comme un seul instant, le réveil. Un sera pris, l'autre laissé. C'est pour ça qu'ils sont dans un lit, hein, parce que tout le monde est dans le sommeil. Deux seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Ce qui veut dire quand même qu'il y aura aussi une grâce de quiétude. Jésus dit plusieurs fois, on dira tout est en paix, tout va bien. Il y aura une grâce de quiétude universelle. Et alors si vous êtes dans le champ, comme Lot, mais si vous êtes dans un champ, ne retournez pas en arrière vers la cité, parce qu'il y a un champ à moissonner. Il faut sortir de la cité. Et il y a ceux qui sont sortis de la cité, et qui sont dans le champ à moissonner. Mais il y en aura un qui est dans le champ, en train de moissonner, enfin, en train de préparer la terre du corps spirituel. Un venu d'en haut qui est en dehors de la cité terrestre. Ils seront deux dans un champ. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui se retourne. Il retourne en arrière. Il y a ceux qui auront tout donné entièrement, qui ne regarderont. Ça ne les intéresse absolument pas. Il n'y a que Dieu qui les intéresse. Et ils sont prêts à se perdre entièrement. Ce qu'ils sont, eux, ne les intéresse pas. Et ce qu'ils ont, ce possèdent, ne les intéresse pas. Ce qu'ils ont possédé, ne les intéresse pas. Le monde nouveau est là. Et se nourrit parce que Dieu n'est pas inconsistant. Et il possède, lui, tout. Et nous avons compris que nous ne possédions rien. Si nous n'étions pas entièrement englouti dans l'Immaculée Conception pour cultiver sa fécondité dans le corps spirituel venu d'en haut. Alors là, on possède vraiment tout. Et si on regarde en arrière pour voir si on peut retrouver les grâces que Dieu a données à profusion dans le monde ancien, alors nous ne serons pas pris et nous périrons. Ouais, c'est bien ça. C'est quand même ça, ça c'est l'enseignement. Et ça, donc pour le catéchisme de la Bible, il faut lire la deuxième épître aux Thessaloniciens, et puis il faut lire l'Apocalypse, bien sûr, le livre d'Ézéchiel, et le livre de Daniel. Et il s'agit de quoi, là? Il s'agit du sixième sceau de l'Apocalypse. Hein? Le jour du Seigneur, c'est ce qu'on appelle le sixième sceau de l'Apocalypse. Le cinquième sceau, c'est la grande préparation. Le don qui est fait. Le monde nouveau. Nous est donné réellement, eucharistiquement, infailliblement, et aussi substantiellement, du point de vue donc de la fécondité céleste jusque dans notre existence incarnée terrestre. Le temps s'ouvre, ça y est, le temps est passé devant, le temps est passé devant l'espace, devant la vastitude de l'univers. Un temps nous est donné qui nous ouvre à ce qui dépasse la vastitude de l'univers. C'est ça l'avertissement. Les portes de l'Immaculée Conception s'ouvrent pour que nous y pénétrions dans l'ouverture des temps. Et là, si nous y pénétrons, eh ben, dans le grand désert de la royauté du règne du Sacré-Cœur de Jésus, nous rentrerons dans la tarte des mâts. Dans ce sommeil spirituel d'amour et d'espérance et de confiance et de présence, d'attente, d'aspiration à l'ouverture du sixième sceau de l'Apocalypse. Ils sont emportés dans l'au-delà d'ouverture des temps, à l'intérieur du lieu du Saint des Saints, de la présence créatrice de Dieu, dans les prémices du corps spirituel, de servir de germe et de terre, de champ à cultiver, pour la première résurrection. Et il y aura cette première résurrection, ce jour-là. Et cette première résurrection emportera l'incarnation des hommes, des fidèles de la Jérusalem, de l'Église. Mais ceux qui sont endormis, de manière insipide, en gardant un petit quelque chose de la terre, voyez, une sécurité de la terre. Je peux quand même pas laisser ma famille. Je peux quand même pas laisser ma paroisse. Je peux quand même pas laisser. Vraiment, tu peux pas laisser. Tu peux pas laisser Israël. Ah, tu peux pas laisser. Alors l'ange Gabriel apparaît à Joseph et dit, en pleine nuit, entre minuit et 3 heures, parce qu'on connaît l'heure en plus, dans la nuit, prends ton épouse, prends prend l'enfant et sa mère, et sur l'âne descend, quitte Israël, et va au fond de l'Égypte, au fond du désert. Eh bien, un signe va être donné. Le jour du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, pour le jugement dernier, ça c'est le septième sceau de la promesse. Il vient sauver tout ce qui est purifié, brûlé, par l'amour. Hein. Et avec ça, il récapitule la résurrection, produit le jugement dernier, et sauve la création tout entière, mais tout entière, matière, verbe, fleurs, animaux, tout est récapitulé et sauvé d'un bout à bout du monde, d'un bout du monde à l'autre, et de manière fulgurante en plus. Alors là, c'est Jésus, là. C'est Jésus avec l'autorité incréée de Dieu, absorbant le monde temporel et le monde de l'univers dans son mode non glorieux. Il absorbe tout, parce qu'il est Dieu. Tandis que dans le sixième sceau d'Apocalypse, c'est le signe du Fils de l'homme. C'est le fruit émanant de l'état victimal eucharistique, du Dieu vivant qui est venu se faire prisonnier d'amour dans le fond de l'hostie, s'épanouissant dans l'ouverture des temps du sixième jour. Il va émaner de l'intérieur du royaume intérieur, de l'immaculée conception vécue dans la nature humaine tout entière à travers nous. Va se manifester à l'intérieur de nous la croix glorieuse, le signe du Fils de l'homme. Et c'est vrai que, point de vue cosmique aussi, le ciel se déchirera et on verra, c'est sûr. Il y aura aussi le signe, mais ce n'est pas du tout ce signe-là. Ce signe-là, tout le monde le verra, ceux qui sont pris, ceux qui sont laissés. Mais le signe du Fils de l'homme, c'est un signe eucharistique, attention. C'est un signe marial, là. Glorieuse apparaît à partir de Jésus, sort de l'Eucharistie sous forme de croix glorieuse. Et je trouve ça très beau que dans l'évangile, Jésus, il dit, il parle du jour du Fils de l'homme pour parler de ce signe de la croix glorieuse. Sacrement éclatant à l'intérieur de ceux qui vivent. De l'éclatement, si je puis dire, de l'explosion, de la manifestation intérieure. De l'hostie vivante dans l'immaculée conception accomplie et en sa fécondité dans l'ouverture des temps. Et l'apparition en nous de la Jérusalem nouvelle. Le monde nouveau est devant nous. Voilà, fin d'explication. Ça, pas besoin de saint Thomas d'Aquin, pas besoin de saint Albert le Grand, pas besoin de saint Dominique, pas besoin de saint François d'Assise. Tout ça, c'est dans l'Écriture. C'est dans la Bible. Pas besoin d'interpréter, il suffit de lire, d'entendre, recevoir la parole de Dieu, la sagesse. Va se faire voir dans notre raison. La sagesse de la croix va se... Et elle a ce visage de la croix glorieuse. C'est pas un signe de croix lumineux et vivant. Hein. Non, non, non. C'est quelque chose qui est aussi intérieur que la transsubstantiation et la transactation sponsale dans l'Eucharistie. Qui se produit à l'intérieur de l'Assomption de Marie. notre transformation surnaturelle à l'intérieur du corps, là sur le corps. J'allais dire, les vautours ne peuvent plus rien faire puisqu'il disparaîtra à leurs yeux. Et il ne restera plus pour eux que l'aquilon. Évangile, cette annonce, cette bonne nouvelle, d'abord c'est que c'est pour notre génération. Deuxièmement, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule voie d'accès, une seule arche, un seul engloutissement, un seul lieu, un seul temps, une seule consistance, une seule voie. Une seule demeure, c'est la raison. Et l'union transformante, mais l'union transformante qui touche quand même et s'engloutit dans la tare de marin, dans le mariage spirituel, s'épanouissant dans celui qui peut venir en prendre possession, dans la dixième hiérarchie, comme dit Saint Hildegarde. Saint Hildegarde, c'est pas l'émeraude, ça vous rendra un peu moins mauve. Prenez de l'épeautre, ça vous rendra un petit peu moins amer. Non, c'est l'appel à la dixième hiérarchie. Au jour du Fils de l'homme, quand les vautours voudront s'approcher, s'intéresser, s'engloutir, dévaster de leur noirceur, le Saint-Dessin, de la conception de Dieu lui-même. J'ai honte de le répéter. On le sait par cœur, vous voyez. Tout ce que je viens de dire, de répéter des milliers de fois, on ne devrait pas répéter les choses comme ça. Répéter toujours la même chose, toujours la même chose. J'ai un peu honte. Tant pis. Il faut le couper, puis il ne faut plus le dire, peut-être. Parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Une fois qu'on leur a dit une fois, ça va, ils ont compris. Hein, ils s'y mettent. Eh ben non. On continuera à se marier. On continuera à manger. Et on continuera à faire de la médecine. Et on continuera à faire du tout. Et on continuera. Et non, on continue. Et bien, toutes ces choses-là sont devenues substantiellement inconsistantes, substantiellement insipides. On peut les laisser tomber. Tout est eucharistique. Tout est immaculé conception. Tout est dans le monde nouveau. Tout est dans la présence créatrice et l'engendrement totalement à partir de rien, précisément à partir de ce vide de la transgression suprême, à partir de rien. Un monde vraiment nouveau. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Une épousée parfaite, sans tâche. Ah, ils sont sans excuse, dit le livre de la sagesse de la croix aujourd'hui. Sans aucune excuse. Parce qu'ils le savent. Que Dieu existe, ils le savent. Ils le savent bien. Hein? Mais ils disent que Dieu n'existe pas pour eux. Ils sont inconsistants quand même. Donc le fait de le savoir, le fait de le réentendre, De le réentendre. Ça ne suffit pas, bien sûr. C'est pas que c'est. Et l'essentiel se fait dans ce que Dieu va transformer et recréer et réengendrer à l'intérieur de nous, sans autre chose en nous que le oui originel de l'Immaculée Conception. Il n'y a pas d'autre voie d'accès. à la résurrection continuelle, grandissante, intensifiée, s'intensifiant continuellement, sans aucune entrave jusqu'à l'accomplissement de ce qui est au-delà de la sagesse, dans le monde incréé, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Hein. C'est assez.